Merci beaucoup à nos intervenants. Désolé d'avoir pressé un petit peu, précipité la fin de cette session. Sans plus de transition, je vous propose de passer à la conclusion avec Magali Reguezazit, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure, et Bettina Laville, qui est présidente d'honneur du comité 21, conseillère d'État honoraire.
Merci à tous d'abord d'être restés si longtemps. Merci à nos intervenants. Je crois que toutes les tables rondes ont été passionnantes. Alors, je sais que vous êtes frustrés parce qu'on ne vous a pas donné la parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on va corriger au prochain colloque. Il y en aura un ou deux l'année prochaine sur la thématique de l'adaptation. Avant de vous donner quelques mots de conclusion et de perspective, j'ai voulu inviter Magali, que tout le monde connaît sur l'adaptation, qui est une grande scientifique et qui a fait une formidable thèse sur les inondations de 1910. C'est d'ailleurs à ce propos que nous nous sommes connus. On n'était pas en 1910, hein, ni l'une ni l'autre, mais enfin, c'est à ce moment-là. C'est à propos de cette... elle, c'est sûr, et même moi, vous voyez. Elle a œuvrer au ministère de la recherche, et puis évidemment elle est à Normale Sup sur tous les sujets climatiques. Alors en fait, nous, dans ce colloque, ce qu'on a voulu faire, c'est donner parfois plus que d'habitude la parole aux entreprises, parce que vous avez vu avec les différentes entreprises qui ont présenté ce qu'elles font, qu'il y a beaucoup de choses qui se fait en ce moment, mais soyons clairs, pas assez. Parce que même dans le CAC 40, je peux vous dire que parmi, par exemple, nos membres, il y a vraiment des gens qui ne font pas encore assez de choses et qui sont juste en train d'ouvrir le dossier. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que ce colloque, dont vous aurez les actes, etc., existe. Deuxièmement, les entreprises ont très souvent des conseillers scientifiques, mais suivant, et des scientifiques comme conseillers, mais suivant leur spécialité, suivant les produits qu'ils fabriquent. Mais parfois, pas forcément, sauf dans des comités à très haut niveau, des scientifiques sur des sujets aussi vastes que l'atténuation, l'adaptation. Ils les invitent en conférence, etc., mais il n'y a pas forcément un travail extrêmement étroit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu inviter Magali, pour lui demander son regard, en fait, de scientifique sur entreprise et science, en fait, par rapport à l'adaptation au changement climatique, avant de vous donner quelques mots de conclusion.
Merci Bettina, merci à vous tous. Je vais essayer d'être brève. D'abord, je vais un peu doucher l'optimisme, parce que j'aimerais quand même qu'on recadre les choses. La France à 4 degrés, c'est un scénario réaliste, pas forcément optimiste. Et très honnêtement, et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport d'experts du GIEC, le dernier rapport du GIEC, il y a une limite dure, en fait il y a deux limites dures à l'adaptation de nos sociétés, c'est le niveau de réchauffement climatique et c'est l'érosion de la biodiversité. Je ne sais pas comment aujourd'hui notre pays s'adapte à une France à 4 degrés. C'est une France, comme vous l'avez dit, où des tempêtes centennales, c'est une chance par an. En 2100, à 4 degrés, 2022 est un été froid. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'on pourra livrer le courrier à 50 degrés, parce que tout simplement à 50 degrés, il n'y aura plus de courrier, parce qu'on ne pourra plus se balader dans les rues. Donc je crois quand même qu'il faut remettre les choses en place et se dire qu'aujourd'hui, nous sommes d'abord dans un contexte qui est très important, et je l'ai entendu, je vous en remercie. La condition de possibilité de l'adaptation, c'est l'atténuation. Et cette atténuation n'est pas juste un objectif philanthropique, c'est un objectif économique. Parce que cette atténuation, pour les entreprises, c'est un formidable champ pour des stratégies industrielles, des stratégies agricoles, des stratégies de mobilité, des stratégies qui font qu'aujourd'hui, nous sommes déjà engagés dans une révolution technologique, une révolution industrielle, une révolution agricole, une révolution énergétique, et que l'Europe est en train de prendre beaucoup de retard par rapport à ces fameux autres pays qui sont certes responsables des émissions, mais qui ont engagé depuis des années des révolutions au sens propre du terme et qui aujourd'hui sont les leaders sur le marché de la décarbonation. Et donc, il y a un enjeu majeur de compétitivité et de souveraineté de nos entreprises, avec des contextes géopolitiques que vous connaissez, qui sont particulièrement volatiles et qui posent aujourd'hui des enjeux vraiment au niveau européen pour savoir comment est-ce que demain, nos entreprises, au niveau international, vont pouvoir garder leur compétitivité et leur souveraineté dans des contextes qui sont toujours extrêmement tendus et qui risquent de le devenir d'autant plus que le contexte géopolitique se dégrade. À partir de ce moment-là, parler évidemment de l'adaptation des entreprises, ça demande de se poser la question quel type d'entreprise, entre l'entreprise du CAC 40 et puis la PME-TPE et par exemple l'agriculteur qui est aussi un entrepreneur ou l'entrepreneur du tourisme, il y a évidemment autant de possibilités que d'entreprises. Donc il n'y a pas une voie seule. Parler d'adaptation de l'entreprise, en fait, c'est parler de résilience. Et effectivement, la stratégie de résilience, elle est très importante parce que c'est la question de, et ça a été aussi très bien dit, à quoi on s'adapte, à quoi on doit faire face. Premièrement, on est d'accord, c'est comment est-ce que les entreprises aujourd'hui vont faire face aux chocs et aux impacts à moyen et à long terme du changement climatique, notamment sur les outils de travail, les infrastructures, mais aussi les salariés. On voit aujourd'hui que dans certains secteurs, il n'est déjà plus possible de travailler à certaines périodes de l'année ou de la journée. Et je pense à la SNCF, où par exemple, quand on restaure des trains dans des hangars, quand on est en période de forte chaleur, il y a un moment, il faut adapter les horaires de travail. Donc ce sont des transformations majeures qui vont se positionner sur le droit du travail, sur la responsabilité des employeurs, sur la localisation. Et ça, il faut l'anticiper et on peut l'anticiper. Deuxièmement, c'est aussi la résilience des fournisseurs, parce que nous ne vivons pas en isolat en France, mais les chaînes de valeur, là aussi, ce sont des chaînes, justement, où chacun dépend de l'autre. On pense beaucoup aux fournisseurs, bien sûr, on pense aussi aux débouchés, mais il faut aussi penser aux clients. Et là, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'on passe son temps à se dire, en gros, est-ce que c'est l'offre qui fait la demande, est-ce que c'est la demande qui fait l'offre. Je rappelle quand même que ce sont les entreprises, par leur stratégie, qui guident aussi, ça s'appelle du marketing, je pense qu'on connaît tous ça, qui guide aussi les besoins donc les stratégies des entreprises sont les conditions indispensables pour que derrière les comportements suivent. Tant qu'on expliquera aux gens que le must du must, c'est la petite chemise à 1 euro, c'est la grosse voiture et c'est le gros rouge qui tache, on n'arrivera pas à rentrer dans des canons de la sobriété, qui n'est pas un gros mot et qui n'a rien à voir avec la décroissance et qui n'a rien à voir non plus avec le retour à la bougie. Troisièmement, la question de la résilience de l'entreprise face à la transition. Parce que là aussi, il ne faut pas se leurrer, le choc de transition, il est là. Et ce choc de transition, il est dans le fait que plus on s'oriente vers des politiques de décarbonation et d'adaptation, plus les entreprises vont se trouver, elles aussi, soumises à des injonctions qui sont des injonctions, bien sûr, de la part des consommateurs, de nouvelles normes, de nouveaux prix, de nouvelles barrières douanières. Et donc, le contexte économique dans le cadre d'une décarbonation qui va à un moment arriver, et peut-être plus brutalement que ce qu'on pense, eh bien, les coûts de transition aujourd'hui sont complètement invisibilisés alors qu'ils pèsent déjà énormément sur les PME-TPE et qu'ils créent là aussi de la déstabilisation et qu'ils créent là aussi de la fracture, de la colère, de la résistance. Enfin, si tout ça marche et si nous atteignons la neutralité carbone en 2050, nous allons vivre dans un monde décarboné. Et ni vous ni moi n'avons jamais vécu dans un monde décarboné. S'adapter à un monde décarboné, c'est aussi quelque chose d'important.
Tu veux dire qu'on va s'ennuyer ou...
Je veux dire qu'on va adorer. On va être dans un monde où il y aura moins d'eau, moins d'énergie, moins de sol, moins de minerais. Parce que le climat a changé, parce que la demande a aussi évolué. Et donc nous allons aussi devoir faire avec peut-être moins ou en tout cas différemment. Et raisonner, aujourd'hui ce qu'on fait, c'est que nous raisonnons pour faire simple dans un climat qui n'existe plus, qui n'existera sans doute plus jamais à l'échelle de notre vie, en imaginant que les ressources naturelles telles que nous les connaissons seront les mêmes dans 20 ans, que les besoins seront les mêmes et que les contextes géopolitiques seront les mêmes. C'est absolument vertigineux, mais c'est aussi absolument fascinant parce que derrière, c'est des gisements d'emploi, des gisements d'innovation, des gisements de bien-être, de co-bénéfice, de partage. Ce sont d'autres modes de production, d'autres modes d'habiter, de transport, de logistique, d'aménagement. Tous les secteurs sont touchés. Je rappelle juste que nous avons connu des révolutions industrielles que nous avons relevées avec succès. Nous avons connu la reconstruction dans un contexte qui était bien plus difficile sans doute encore qu'aujourd'hui. Nous avons su relever le gant. Et donc les entreprises aujourd'hui, elles sont au centre de la stratégie. Elles sont absolument au centre des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Je conclurai sur deux points. La première, c'est qu'on a beaucoup parlé de diagnostic de vulnérabilité, on a peu parlé du diagnostic de ressources. On oublie la question des ressources. Et ces ressources, elles sont multiples. Les ressources humaines, avec cette jeunesse qui arrive, de mieux en mieux formée, avec aussi les ressources que nous offrent nos environnements, les services écosystémiques, les ressources que nous offre l'innovation, les ressources que nous offrent les compétences, les expertises. C'est aussi une occasion formidable de revaloriser des métiers et des savoir-faire à l'intérieur des entreprises. Deuxièmement, c'est la question de l'investissement. Cet investissement, aujourd'hui, doit être fait au prisme de la maladaptation. Alors, cette maladaptation, parfois, elle n'est pas évitable. Mais il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'on investit un euro dans de la maladaptation ou de la malatténuation, on fabrique un actif échoué. La réalité, c'est ça. Et donc aujourd'hui, toute la question, c'est de ne pas transformer l'atténuation et l'adaptation dans la production d'actifs échoués qui, dans 20 ans, seront abandonnés. Et cette fois-ci, je ne suis pas sûre que les États pourront financer ce qui serait l'équivalent de la crise des subprimes sur ces modèles d'actifs échoués. Enfin, il est absolument nécessaire aujourd'hui de penser la stratégie des firmes au sens large, à tous les niveaux, dans des consultations, dans des concertations qui sont vraiment celles du privé, en lien évidemment avec les différents acteurs publics et les territoires, pour préserver l'outil de travail, mais aussi les compétences, j'y tiens. La compétitivité, on a un retard important et croissant au niveau européen, alors même que, je vous l'ai dit, on a cette révolution industrielle, cette révolution technologique, probablement aussi demain une révolution fiscale, on va devoir en passer par là, une révolution juridique aussi dans les cadres de droit, une révolution sans doute de valeurs. Donc on est vraiment embarqué sans le savoir dans un train de transformation. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est la suivante. Pour l'instant, nous avons encore le choix des trajectoires. Si nous dépassons les 2 degrés, le seul choix qui restera est de savoir qui on sacrifie et qui on garde. Parce que la résilience, c'est aussi ça. C'est un moment de faire des choix d'abandonner, de laisser, parce que plus habitable, parce que plus finançable. Et donc, plus on ferme la fenêtre de l'atténuation, plus on se rapproche de ce monde à 2 degrés et des conséquences dramatiques sur les écosystèmes, plus nous nous privons de la capacité à choisir de notre avenir. En commençant dès aujourd'hui à travailler sur l'atténuation et l'adaptation, qui pour la plupart des cas sont couplés, nous réouvrons l'éventail des possibles et nous retrouvons des moyens de garantir pour tous, et c'est écrit dans le rapport du GIEC, les objectifs de développement durable pour chacun, la compétitivité, la sécurité, le bien-être et les valeurs, quelles que soient vos entreprises que vous portez et que vous défendez. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport du GIEC, groupe 2 et groupe 3.
Merci Magali. Alors Magali, à chaque fois qu'elle intervient, elle m'étonne toujours parce que elle est capable de prendre le sujet, son sujet, notre sujet, sous des angles différents. Et là, c'était ton côté Bossuet. Et alors, c'est-à-dire que... je vous montre dans quel enfer les péchés vont vous précipiter, mais peu à peu je vous entraîne vers le paradis possible, sauf que quand même à la fin, pour que vous restiez sage, je vous remets une petite couche d'enfer, n'est-ce pas, possible, pour que vous restiez
au purgatoire.
Oui, c'est ça, pour que vous ayez une chance de sortir du purgatoire. Bon, alors, plaisanterie de côté, merci de ton intervention, parce que je crois effectivement. Effectivement, alors moi je déteste depuis le temps qui est plus important que toi, où je fais du changement climatique, de l'environnement, tout ce qu'on veut. Je déteste les mots optimiste et pessimisme, et je trouve qu'il faut regarder la réalité en face et que cette réalité, elle est pas évidente. Alors, une petite conclusion rapide. D'abord, j'ai vraiment des remerciements à faire au nom de Philippe Dessertine, de notre vice-présidente qui est là, des membres du comité 21. D'abord, vous me permettrez de dire merci à notre équipe, parce qu'on a organisé ça dans des... Voilà. Et particulièrement à Simon Luc, parce qui a organisé le colloque. On a organisé ça dans des conditions un petit peu particulières. On ne va pas vous raconter notre vie, mais enfin, ça a été un petit peu compliqué. Certains l'ont senti, mais manifestement, ils ne nous en tiennent pas rigueur, puisqu'ils sont venus. Donc, merci à tous. Deuxièmement, merci à tous nos intervenants, nos animateurs. Je sais, c'était très dense. C'est mon défaut, puisque j'ai participé à cette organisation. organisation. Simon, lui, qui est un vrai organisateur, m'avait averti. Il y a trop de monde, mais enfin, c'était quand même diablement intéressant. Voilà, donc, bon. Troisième chose, et après. Alors, après, vous savez que nous avons un programme d'adaptation qui va se continuer cette année. Cette année qui vient, là, donc, en 2025. Moi, je voudrais juste faire trois ou quatre remarques. Alors, je ne vais pas faire comme Bossuet, mais dans le genre négatif, il y a quand même la COP29 hein, au niveau adaptation. Alors là, c'est très simple, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire la partie adaptation de la COP29, on vous donnera demain une note d'analyse de la COP biodiversité et de la COP climat. Les choses n'ont pas bougé puisque le texte a été pris, alors vraiment avec quelques petites nuances et c'est tout, exactement à la lettre comme celui de l'année dernière. Donc ça, moi, je le regrette beaucoup parce que ça n'avance pas au niveau international. Et du coup, et ça, Magali le disait très bien, quand l'adaptation va mal, l'atténuation ne va pas bien et vice-versa, je veux dire. Et donc, c'est vraiment un vrai sujet. Deuxième observation, vous l'avez vu à la seconde table ronde, on a voulu faire un panorama entre le sociétal et le technique, parce que en fait c'est ça l'entreprise. L'entreprise, avec justement ce mot responsabilité qui a été prononcé souvent, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, et c'est pas rien, c'est pas pour rien que le volet adaptation est aujourd'hui dans la CSRD un peu critiqué, mais enfin je pense qu'elle tiendra le coup. Et donc là c'est vraiment l'addition, justement, pas le ou-ou, mais l'addition du sociétal et de la technique qui doit aujourd'hui ciseler l'adaptation. Troisième observation, alors moi je pense que si le PNACC 3 pouvait nous faire un cadeau, c'est, et ça moi nous le dirons dans notre contribution comité 21, c'est de faire un petit choix entre l'adaptation, la résilience et les vulnérabilités. Parce que si je comprends bien, dans le PNACC 3, les entreprises doivent faire des études de vulnérabilité, mais s'adapter. Les régions font des plans d'adaptation. Et les départements font souvent des plans de résilience. Alors, si vous voulez, quand déjà vous avez un public, vous l'avez tous dit, qui n'est pas totalement sensibilisé à cette affaire, et que vous appelez ça résilience, adaptation, vulnérabilité, et puis en fait j'oublie je ne sais pas combien de termes, ça c'est pas possible. D'accord, ça ne veut pas dire la même chose, mais en fait si. Et si on veut que les gens intègrent ce concept, comme vous l'avez tous dit, au niveau individuel et au niveau collectif, il faudrait peut-être juste appeler les choses par le même nom, je veux dire. Et comme il a été très bien dit, je crois que, je ne sais plus par qui, que l'auteur me pardonne, le mot adaptation est quand même assez large pour englober toutes ces études de vulnérabilité, la résilience. Vous savez, je dis toujours, alors je l'ai déjà dit, alors pardon, que la résilience au niveau psychique, c'est quand on se redresse après le deuil. Mais là, comme nous l'a dit Bossuet, on n'est pas encore en deuil, d'accord, puisqu'on a encore une fenêtre pour s'en sortir. Donc on n'est pas vraiment dans la résilience. Donc il faut penser à tout ça. Troisième observation, la transformation. Ça a été dit dans la première et deuxième table ronde. Il faut voir que l'adaptation, nous allons publier un rapport en janvier qui a tardé, mais qui va arriver sur les nouveaux modèles. Et un de nos axes très très important, c'est de dire que l'adaptation, c'est vraiment un nouveau modèle de société. Et que dans le nouveau modèle de société, l'adaptation doit être la colline dorsale de ce nouveau modèle, puisque, comme tu l'as très bien dit, voilà, c'est notre vie, hein, aujourd'hui. Bon. Et donc l'adaptation doit être transformationnelle. À la COP29, les pays ont refusé le mot adaptation transformationnelle. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi ? Parce que qui dit adaptation transformationnelle, finalement, les pays du Sud pensent que ça met les pays du Sud à l'écart, alors que ce n'est pas du tout vrai, mais manifestement, la pédagogie n'est pas encore faite. Quatrièmement, moi, j'ai été frappée du va-et-vient que vous faites
tous entre l'individuel et le collectif. Et finalement, il y a des adeptes de l'autoconsommation, etc. Et ça, quelque part, c'est de l'individuel. Mais il faut, tout le monde dit qu'il faut que l'adaptation doit être évidemment collective et inclusive. Donc, c'est exactement comme l'ensemble, d'ailleurs, des problèmes climatiques ou des problèmes de biodiversité. C'est un nouveau rapport, en fait, à l'humanité. Et l'humanité, c'est fait de l'individuel et du collectif. Et ça, c'est extrêmement important. Et là aussi, je trouve que le PNACC devrait, comme vous avez par exemple, avoir un anthropologue comme inspirateur de ce papier. Dernière observation, ce qu'on va faire nous. Alors, deux choses. D'abord, on vous incite beaucoup à répondre à la consultation publique du PNACC. Ça, c'est vraiment très important. Deuxièmement, on va nous faire une réponse globale avec nos adhérents. Troisièmement, à partir de cette réponse qui sera en ligne, forcément avant le 27 décembre, puisque c'est la date limite. Bon, enfin, on va essayer de ne pas vous envoyer seul le jour du réveillon, parce qu'on a de l'humour. Donc, on va essayer de vous envoyer ça le 15 décembre à peu près. On va vous donner à toutes les entreprises un appel qu'on est en train de rédiger, mais on attendait ce colloque pour se nourrir de cet appel, pour qu'il y ait plus de mesures entreprises dans le PNACC. Dans le PNACC 1, il y en avait pas pratiquement. Le 2, ça frémissait, mais frémissait seulement. Là, le 3, il y en a, avec quand même cette formule, et je sais bien que l'ère du temps n'est pas à la contrainte, mais avec cette formule qui dit que peu à peu, ça deviendra obligatoire. Alors, pour reprendre les propos de Magali, il est absolument évident que ça doit devenir obligatoire, parce que comme tous les intervenants l'ont dit, écoutons Stéphane Bouillon, j'ai de rejoindre Matignon, mais je veux dire, il l'a dit très bien, ça fait partie des services vitaux, des services essentiels. Les entreprises, c'est les entités qui fournissent les services vitaux. Et finalement, l'administration, l'État encadre tout ça. Mais la production, je dirais, est très importante et ce sont les services vitaux. Par conséquent, si vous voulez, il faut absolument qu'il y ait plus de mesures entreprises dans le PNACC. C'était la raison profonde de notre colloque et c'est la raison aussi profonde, comité 21, évidemment, association qui met ensemble les collectivités, les associations et évidemment les entreprises et les chercheurs, la preuve, eh bien, c'est évident que nous devons faire travailler ensemble les collectivités et les entreprises. Et si pour les collectivités, ils avaient pour l'adaptation le réflexe entreprise locale, plus à la limite ou autant que, et alors c'est très important bien entendu, citoyens, c'est-à-dire la sécurité des citoyens et services essentiels municipaux, etc., on y arriverait au niveau local. Et ça, quand les plans d'adaptation sont très bien faits, je pense à celui de l'Aquitaine parce qu'il est particulièrement bien fait, on a l'ensemble de ces acteurs. Donc voilà ce sur quoi on va insister. J'ai dû oublier beaucoup de choses, mais je suis évidemment trop bavarde. Merci à tous et adaptons-nous.